Un jour dans le monde, ce soir, c'est un compte à rebours. Dans 100 jours, les Jeux Olympiques de Paris. Tout a commencé le 13 septembre 2017 avec l'annonce de Thomas Bach, le président du CIO.
Ladies and gentlemen, I have the great honor to announce the International Olympic Committee has simultaneously elected Paris 24, Los Angeles 28.
Voilà, plus vite, plus haut, plus fort. Si on devait adapter la devise de Pierre de Coubertin à ces Jeux 2024, ce serait plus sobre, plus économe, plus populaire. C'est l'objectif annoncé par la France. À 100 jours de la cérémonie d'ouverture, entre les Cassandres et les enthousiastes, on a voulu faire le point en comparant 2024 à Londres 2012, Rio 2016, Pékin 2008. Y aura-t-il des surcoûts, des installations abandonnées une fois la flamme éteinte? Quelle retombée économique? Pour quelle image d'ailleurs au final? Il s'agit de faire la fête et d'accueillir le monde, dit Tony Estanguet. Eh bien, on va essayer de chiffrer ces 29 jours extraordinaires. Bonsoir Pierre Rondeau.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à la Sports Management School, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Le mantra de ces Jeux de Paris, c'est les Jeux. Je finance les jeux. Autrement dit, ça ne coûtera rien aux contribuables et pas de dérapage. On est sur un budget de 8,8 milliards d'euros. On était parti lors de la candidature de la France sur 6,3 milliards. En fait, chaque Olympiade coûte finalement beaucoup plus cher.
À chaque fois, il y a un dépassement. Le taux moyen de dépassement entre le budget prévisionnel au moment de la candidature et le budget final à la fin de l'événement, le taux de moyen de dépassement est de
167%. 167%.
Alors, chiffre à prendre avec des pincettes parce que le cap.
C'est à chaque fois comme ça?
Bah oui et non, parce que Pékin, par exemple, en 2008, le dépassement était de 1130% entre ce que les Chinois avaient prévisionné, budgété au moment de la candidature et le coût final de 32 milliards.
Oui.
Donc on en est loin par rapport à ce qu'est Paris. Mais il y a effectivement quasiment à chaque fois un dépassement pour plein de raisons, parce que c'est compliqué d'anticiper 7 ans à l'avance, 8 ans à l'avance un budget. Mmh. Il peut avoir de l'inflation, il peut avoir des problématiques de sociale, sociétale, il peut avoir une augmentation des matières premières, il peut avoir le cas avec le Covid, des retards sur les travaux, donc une demande d'accélération, et qui dit accélération dit rajout d'économie, rajout d'argent, des problématiques de sécurité donc vont coûter plus cher, donc vont coûter plus d'argent.
Oui.
Donc bien évidemment, le dépassement arrive quasiment à chaque fois.
Quels ont été les jeux les plus chers?
Pour le moment, ça reste Sochi pour l'hiver à une somme de 48 milliards et Pékin à 32 milliards.
Et les moins chers?
Alors les moins chers, et on peut remonter.
Ça dépend. Si on remonte loin,
évidemment.
Voilà, si on
remonte très longtemps. Par exemple, les jeux les plus sobres d'un point de vue économique,
oui,
qui ont coûté autant ce qu'ils ont rapporté, c'est les Jeux de Los Angeles en 84. Ils ont coûté 2 milliards, ils avaient prévisionné 2 milliards.
Bon, alors, on regarde les coûts ensemble. En fait, il faut faire la différence entre ce que finance le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJOP, qui est de l'argent privé, et ce que finance l'État via la Solideo. C'est la société de livraison des ouvrages olympiques, c'est ça?
Alors effectivement, souvent, et c'est dit en termes de communication officielle par Tony Estanguet, les membres du COJOP ou les représentants politiques, les Jeux financent les Jeux seront sobres, les Jeux seront entièrement financés par la billetterie, le marketing, le merchandising. On est sur le budget du COJOP. Le COJOP, vous l'avez dit, c'est 4,4 milliards. 97% à fonds privés, via la billetterie, via le merchandising, via le sponsoring, via les droits TV. Et ça, effectivement, dans une moindre mesure, d'une certaine manière, les Jeux sont autofinancés par ce qu'ils rapportent. Effectivement. À côté, on a la Solideo. La Solideo, c'est essentiellement fonds publics de l'investissement du structurel, le village olympique, les infrastructures olympiques, le Media Center, le bassin aquatique. Là, ça coûte de l'argent directement via l'apport public, via le contribuable. Alors, est-ce que ça coûte de l'argent ou c'est un investissement? On peut aussi se poser la question. Mais on est sur la Solideo fonds publics et COJOP fonds privés. Le COJOP, ce sont les organisateurs des Jeux Olympiques, et effectivement, c'est essentiellement à 97% fonds privés.
Bon, mais là, le dérapage, il ne va pas forcément figurer dans le budget, c'est-à-dire tous les coûts induits, et en premier lieu, ceux de la sécurité pour la cérémonie d'ouverture et pour toute la journée des JO.
C'est la question qu'on se pose, est-ce que c'est un coût ou un investissement? Est-ce que dépenser de l'argent pour assurer la sécurité avec plus de 15 millions de personnes personnes qui vont venir à Paris en août prochain pour assurer à ce que les yeux du monde constatent que la France est une terre sécurisée, si je puis dire. Est-ce que c'est un coût? Est-ce que dépenser de l'argent pour construire un village olympique qui sera réhabilité en logements et logements sociaux, est-ce que c'est un coût? Est-ce que construire un bassin aquatique en Seine-Saint-Denis où un jeune sur deux ne sait pas nager, est-ce que c'est un coût?
C'est toute la question. C'est difficile sémantique. De quantifier le retour sur investissement.
On est d'accord. En termes de retombées économiques, si vous mettez 1 million de personnes au sport, on estime qu'il y a un effet multiplicateur à 250 millions d'euros via une économie en termes de politique de santé publique, de lutte contre la sédentarité, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Donc, on espère, en tout cas, ils espèrent, les organisateurs, les promoteurs des Jeux Olympiques, qu'investir structurellement de l'argent, plusieurs milliards, pour ces Jeux, serait a posteriori une aubaine pour la santé publique, pour l'héritage, pour la pratique sportive, pour la renommée, pour la réputation, pour le tourisme aussi. Mais voilà, aujourd'hui, à l'instant T, si vous me posez la question, ça coûte de l'argent.
Est-ce que l'impact du tourisme, on peut déjà le mesurer?
Il est extrêmement...
Parce que la France est quand même déjà la troisième destination mondiale, alors ça ne va pas changer grand-chose en fait.
Et d'autant plus qu'on pourrait aussi préciser l'effet de ce qu'on appelle en économie l'effet de substitution et l'effet d'éviction. Les touristes culturels qui viennent à Paris en août, en tout cas l'été, ne vont pas venir cet été pour les Jeux Olympiques par peur des touristes sportifs et par peur de l'événement. Donc il y aurait aussi un effet de remplacement entre les touristes qui ont l'habitude de venir et ceux qui vont débarquer à Paris. Donc on peut aussi se poser la question de l'effet d'aubaine touristique. On nous dit, voilà, le monde entier va venir à Paris. Vous l'avez rappelé, le monde vient déjà à Paris.
Il vient déjà, c'est ça.
Donc est-ce que c'est un gain? Est-ce que c'est un effet nul? Est-ce que c'est un effet négatif parce qu'il y aura une peur et une appréhension par rapport au jeu? Donc au final, une fuite en avant. Ce qu'on peut malgré tout préciser, c'est que le portefeuille moyen, en tout cas la dépense moyenne d'un touriste sportif est plus importante que la dépense moyenne d'un touriste culturel. On le constate par comparaison avec différents événements sportifs. On admet que le touriste sportif, dans l'euphorie d'une victoire, a tendance à plus dépenser, donc bien pour l'économie locale, qu'un touriste culturel.
On peut parler du prix des billets, parce que ça a été une grosse polémique il y a quelques mois. Une dernière fournée de 250 000 billets a été mise en vente ce matin. Au départ, les organisateurs ont beaucoup insisté sur des jeux populaires, avec 1 million de places à 24 euros. Alors, vrai ou faux ?
Vrai, mais comme on en a 1 million à 24 euros, il faut compenser cette accessibilité par des places beaucoup plus chères à côté. C'est tout le paradoxe. On a effectivement un prix moyen à 50 euros, mais c'est ce qui signifie que si vous avez 1 million de places à 24 euros, vous avez aussi des places à 600, 700, 800, 900 euros.
Et là, on est plus cher que les autres, on est plus cher que Londres, par exemple.
Encore une fois, c'est un peu moi, ce que je mets en avant et ce que je critique, c'est la communication. Parce qu'on est sur les standards olympiques, notamment vis-à-vis des Jeux de Londres. C'est la même équivalence. Dès lors que vous avez le COJOB, qui est autofinancé à 87% par des fonds privés, dès lors que le COJOB doit dégager 1,2 milliard d'euros de recettes billetterie, si vous mettez d'un côté la communication de jeux populaires avec des places à 20 euros, mais il faut que vous ayez 1 milliard d'euros de billetterie, mécaniquement, vous avez l'obligation de vendre des places à plus de 100 euros.
Alors, l'un des pays qui a le plus tiré profit des Jeux, c'est la Chine. Les Jeux d'été en 2008, Jeux d'hiver en 2022. Bonsoir Sébastien Berriot.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Pékin. En 2022, en plein Covid, c'était vraiment un gros défi.
Oui, alors c'est JO d'hiver 2022, on peut le dire, c'était pour les Chinois un véritable coup de poker, des Jeux organisés dans une bulle sanitaire inédite. Les plus grands experts du mouvement olympique prédisaient une catastrophe sportive et sanitaire. Finalement, tout s'est plutôt bien passé. L'épidémie a été maîtrisée pendant les Jeux. C'est vrai que les Chinois n'ont pas pu assister physiquement aux épreuves, mais grâce à la télévision, toute la Chine a vibré pour ces sportifs qui ont fini troisième au tableau des médailles. Le boycott lancé par plusieurs pays anglo-saxons, lui, n'a pas vraiment fonctionné. Lors de la cérémonie d'ouverture, Xi Jinping était entouré d'une trentaine de dirigeants internationaux. Le régime communiste a rempli ses objectifs grâce à ses manœuvres diplomatiques. Il a même réussi à faire oublier les sujets qui fâchent. La question des droits de l'homme, par exemple, n'a presque pas été évoquée pendant les JO.
Et en 2008, encore à Pékin, là aussi une opération positive pour la Chine ?
Oui, parce qu'à l'époque, la Chine est encore un pays assez fermé, mais au début des années 2000, les Chinois veulent s'ouvrir davantage sur le monde et ont engagé une ambitieuse politique de réforme. Et ces Jeux Olympiques sont considérés comme l'aboutissement concret de ce processus. Tous ceux qui étaient présents en 2008 à Pékin se souviennent d'une capitale complètement transformée, devenue cosmopolite, une image de modernité incarnée par un stade construit pour l'occasion, le fameux nid d'oiseau, qui reste aujourd'hui une fierté pour tous les Chinois. Le nid d'oiseau, seul stade au monde à avoir été, si on peut dire, vraiment rentabilisé sur le plan olympique, puisqu'il aura accueilli deux cérémonies d'ouverture de JO 2022, donc après 2008.
Merci infiniment Sébastien Berriot. On parlait des infrastructures. Partons maintenant à Rio. Bonsoir Jean-Mathieu Albertini.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Rio. Le bilan a été jugé mauvais là, dès la fin des Jeux.
Oui, surtout que 77 000 personnes ont été expulsées dans le cadre de l'organisation des JO. Un sacrifice nécessaire pour transformer Rio, estiment les autorités de l'époque. Mais depuis, la déception domine. La dépollution de la baie de Guanabara reste un rêve lointain quand les 150 km de lignes de trolleybus inaugurées se sont très rapidement détériorées. Un projet de station de métro est devenu un gouffre financier. C'est même littéralement un gouffre que les autorités ont rempli d'eau après l'arrêt des travaux pour éviter l'effondrement d'immeubles alentour. Si on ajoute la spéculation immobilière incontrôlée, la corruption et les infrastructures sportives délaissées, le bilan n'est pas bien glorieux.
Bon, et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu politique local ?
Oui, parce que tout n'est pas à jeter. Le tramway ou la rénovation d'une partie du centre-ville reste un bel acquis. De retour au pouvoir en 2020, le maire de l'époque, Eduardo Paes, compte bien transformer de vieilles promesses en arguments de campagne pour les municipales de 2024. Pour lui, si le plan prévu n'a pas fonctionné, c'est la faute à une succession de crises économiques et politiques combinées avec le mandat erratique de son successeur. 8 ans après, il reprend donc les inaugurations de piscines, une gare routière, 4 écoles, le tout construit à partir du matériel des bâtiments olympiques. Il investit surtout dans la zone ouest de Rio, où se trouve la majorité des électeurs et où Jair Bolsonaro domine. Le maire compte du coup sur le soutien actif de son allié Lula, qui a annoncé l'installation d'un campus sur un site olympique.
Merci Jean-Mathieu Albertini. On parlait des infrastructures, Pierre Rondeau. Emmanuel Macron promettait hier qu'il n'y aurait pas d'éléphant blanc, c'est-à-dire de structures sportives qui ne soient ensuite réutilisées. C'est possible ?
Mais ça sera le cas, je pense. Mmh. Finalement, ce qui a été construit pour l'événement, c'est le bassin aquatique à Saint-Denis. Essentiellement, c'est le village olympique qui sera réhabilité, c'est le Media Center. Mmh.
On fait de belles images à Versailles, on fait de belles images au Grand Palais.
Exactement. Alors, c'est pour ça qu'aussi beaucoup de Parisiens et Parisiennes critiquent l'événement, c'est que l'événement aura lieu dans la ville. Mmh. Et on fera des infrastructures éphémères au pied de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars et ailleurs. Donc, on n'aura pas d'éléphant blanc, de fait. Mais, comme c'est dans la ville, on va déranger les Parisiens. À Rio, ça a été précisé, mais à Rio, les événements avaient lieu 30 km aux abords de la ville. Donc, et on avait construit. Là, on construit peu et on dérange les Parisiens.
Merci beaucoup. Merci Pierre Rondeau d'avoir été l'invité d'Un jour dans le monde. À bientôt.